Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal avec Grâce Amzati Masanzi.
À la une, 13 morts, c'est le bilan du naufrage d'une barque des Fortunes hier sur la rivière Kibali dans la province du Haut-Ouélé. Cette embarcation quittait Ouattara pour Durba. Pour l'heure, le nombre de passagers à bord reste inconnu faute de manifestes. Un cas confirmé de la variole des singes et plus de 80 autres suspects sont signalés dans la province du Congo central. Le ministre provincial de la Santé affirme qu'un plan de riposte d'urgence est en cours. Le chargé de l'éducation agricole au sein de la brigade des jeunes de l'Institut africain de leadership agricole au Kassai oriental est notre invité. Patrick Moulet-Bois nous parle de la sensibilisation que mène son institution pour inciter les jeunes à opter pour l'enseignement agricole. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans la province du Haut-Ouélé, 13 personnes se sont noyées dans la rivière Kibali au moment de la traversée sur une barque de fortune. Le drame s'est produit hier dans la matinée après que cette embarcation a quitté Ouattara pour la cité minière de Durba. Le point Kisangani avec Jacques Mkongole.
D'après des témoins, le trafic entre Ouattara et Durba est intense en raison des diverses activités lucratives que la population exerce dans la cité minière. Le pont s'étant effondré depuis plus d'une année, la population préfère prendre n'importe quelle embarcation pourvu qu'elle arrive à destination, déclare un membre de la société civile locale. Le nombre de passagers à bord reste indéterminé, faute de manifeste, regrette les caucus des députés provinciaux de Ouattara qui avancent un bilan de 13 morts et plusieurs rescapés dans un communiqué de presse. Selon le même document, le bilan officiel n'est pas encore établi ni publié suite au manque de manifestes établis par l'armateur et validés préalablement par les services publics attitrés. Concernant la cause de ce drame, la députée provinciale élue de Ouattara, Françoise Azarokani, pense qu'il serait causé par des vagues de la rivière Kibali en crue à cause de la fréquence des pluies pendant cette période. Dans le même communiqué publié hier à Issirou, le caucus des députés provinciaux de Ouattara recommande au gouvernement provincial de diligenter une enquête en vue de déterminer les responsabilités et éventuellement sanctionner les coupables. Jacques Mkongole, Kisangani, Radio Okapi.
Et à Goma, Nord Kivu, plusieurs acteurs appellent les autorités provinciales à finaliser les infrastructures routières en chantier en ces débuts de saison des pluies. Un appel qui fait suite à la mort de deux personnes noyées dans un puits perdu inachevé au bord de la route principale de Majengo après la pluie de vendredi. Les acteurs de la protection civile, en collaboration avec les jeunes du milieu, ont vidé samedi matin ces puits pour en retirer les deux corps. Dans quel état est ces puits perdus et que faire pour éviter de nouvelles tragédies? Rosalie Zawadi nous appelle de Goma.
Selon les estimations, ces puits, d'une superficie d'environ 40 mètres carrés, est une véritable nasse. Creusé au bord de la route, il recueille les eaux des ruissellements du territoire de Nyiragongo et devient un véritable lac lors de fortes pluies. Thierry Gassisiro, de la Société civile de Nyiragongo, demande aux autorités de finaliser les travaux lancés depuis près d'une année maintenant à ces niveaux.
Malheureusement, après que le gouverneur de province avait lancé les travaux de réhabilitation de cette tronçon routière. Dès lors, rien n'avait suivi comme travaux. C'était juste des cérémonies et des lancements des travaux de réhabilitation où on avait déposé beaucoup de pierres sur cette chaussée-là qui était déjà en état de délabrement. Après le départ du gouverneur, rien n'avait été fait.
Ces drames n'est malheureusement pas isolé. Le député national Mumbere Bonapua estime qu'au moins 10 personnes ont déjà perdu la vie à cause de ces infrastructures incomplètes. D'autres acteurs recommandent aux autorités de canaliser ces eaux meurtrières jusqu'au lac, car les puits perdus ne sont pas une solution durable au problème à cet endroit précis. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Pendant ce temps, les accidents de circulation sont de plus en plus nombreux sur les différentes artères de la province du Haut-Katanga. Pour cela, la ministre provinciale des Transports multiplie des rencontres avec ses services techniques. Elle a réuni vendredi dernier les représentants de la police des circulations routières, ceux de la Commission nationale de la prévention routière et les syndicats des chauffeurs. Objectif, chercher les causes et proposer des solutions afin de préserver les vies humaines. Pour les chercher de la technique à la CNPR, il est temps de prendre les mesures qui s'imposent pour lutter contre ces accidents à répétition. On écoute Christophe Lia dans cet extrait choisi pour nous par Jean Gandoukabongo.
Ces derniers temps, nous avons une recrudescence
des accidents de circulation sur plusieurs axes du Haut-Katanga, notamment sur la nationale numéro 1 de Lubumbashi à Kasumbalesa et de Lubumbashi à Likasi. Il y a lieu de prendre des mesures pour que nous puissions réduire sensiblement les accidents de circulation. D'ici là, nous allons commencer des descentes sur le terrain avec son excellence à la tête pour contrôler d'abord les chargements, obliger tous les conducteurs de passer au recyclage, de diminuer aussi les chargements à partir de nos parkings interurbains, même les petits véhicules qui transportent les marchandises, quand ils vont mettre leurs marchandises au-dessus, ils ne doivent pas dépasser un mètre de hauteur parce que c'est à partir des chargements qui déséquilibrent aussi les véhicules et qui fait un accident. Parfois aussi, les chargements ou la surcharge est à la base des pannes techniques.
Santé à présent. La province du Congo central compte un cas confirmé de monkeypox et 85 autres suspects. Ces malades présentant des symptômes de la variole des singes, notamment des éruptions cutanées, fièvre et autres, ont été enregistrés dans 16 sur les 31 zones de santé que compte cette province. Le ministre provincial de la Santé qui l'annonce appelle la population à l'observance des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Le docteur Ovid Yobila rassure que le gouvernement provincial et la division provinciale de la Santé travaillent avec détermination pour mettre en place urgemment un plan de riposte contre cette épidémie. Le docteur Ovid Yobila est au micro de Nana Plurichimambu.
Depuis un certain temps, notre province est touchée par une épidémie de Mpox. La situation en ces jours se présente comme suit. 85 cas suspects enregistrés dans les zones de santé de Kangu, Kisantu, Bomabungu, Lukula, Boma, Nsonampangu, Luozi, Massa, Nzanza, Mwanda, Inga, Ntselo, Bokokivulu, Kulungongo, Gombe Matadi et Sekebanza. Un seul cas testé est confirmé positif par l'Institut national de recherche biomédicale. La maladie se manifeste par l'apparition de symptômes ci-après. Fièvre, douleur musculaire, douleur dorsale, maux de tête, maux de gorge, manque d'énergie, des éruptions cutanées sous forme de boutons sur les paumes des mains ou les plantes des pieds ou sur tout le corps. Chers tous, protégeons-nous contre cette maladie en respectant les mesures barrières suivantes. Laver les mains régulièrement avec de l'eau propre et du savon ou de la cendre ou appliquer un gel hydroalcoolique. Notre gouvernement et le service de la santé de la province travaillent depuis plusieurs jours avec détermination et efficacité pour mettre en place un plan de riposte visant à enrayer la flambée épidémique de Mpox sur toute la province.
On enchaîne avec le chapitre de l'éducation et nous sommes dans la province du Tanganyika. Ici, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, SINECAT, et le syndicat des enseignants des carrières, SEC, suspendent leur grève. Ils l'ont fait savoir hier au cours d'une réunion à Kalemi. Le porte-parole de l'intersyndicale des enseignants dans le Tanganyika confirme la reprise des activités scolaires dès ce lundi après une semaine de grève sèche. Bruno Djoubikilai donne les raisons de cette suspension au téléphone de Paul Munanga.
Après l'évaluation, nous avons constaté qu'il y a eu des avancées parce que les premiers enseignants dans la République ont déjà commencé à toucher la prime de gratuité qui était en principe l'une des revendications aussi pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Et la deuxième partie, c'est le paiement de l'ajout sur les salaires. Les fonds pour la paie complémentaire du mois d'août est déjà domicilié dans les comptes des opérateurs de paie. Donc nous avons pensé qu'il n'y avait plus d'objection pour pouvoir suspendre momentanément notre mouvement de grève. Nous allons évaluer encore l'évolution de la paye au courant de la semaine et nous allons encore nous retrouver samedi pour une nouvelle évaluation. Mais on précise que cette suspension, elle est momentanée et elle va permettre justement que nous puissions suivre l'évolution de la paye avec les opérateurs de paye. Et à partir de demain, le lundi, tous les enseignants membres du SINECAT et des SEC reprennent demain le chemin de service.
Rendons-nous au Nord Kivu, où la jeunesse s'engage à accompagner les autorités pour restaurer la paix dans l'est de la RDC. C'est la principale recommandation du symposium sur la paix qui a réuni pendant 3 jours à Butembo des jeunes de la partie Grand Nord de la province. Cette activité, organisée par le Parlement des jeunes du Nord Kivu, visait à susciter l'implication de la jeunesse en tant que locomotive pour la pacification de la région. C'est ce que nous dit Grévy Salomon.
Parmi la centaine de participants figuraient les différentes autorités politico-administratives, militaires, policières, sanitaires, ainsi que les représentants de la société civile et la jeunesse des villes de Beni Butembo et des territoires de Beni et Lubero. Ensemble, ils ont abordé des questions liées à la responsabilité des jeunes pour vaincre l'insécurité. Jordan Mugisha, président du Parlement des jeunes du Nord Kivu, parle du sens de cette activité.
Nous sommes en train de traverser une situation très difficile où ce sont les jeunes qui sont en train d'être cités dans tous les mafias qui puisse exister. Et vous comprendrez que la jeunesse est la plus utilisée dans les matières de conflit. On a pointé le doigt la question de la collaboration civilo-militaire qui doit être renforcée pour essayer de mener les actions ensemble.
Les participants s'engagent à sensibiliser à leur tour leur communauté au vivre ensemble et à la non-violence. Danny Mwindo est le président du Parlement des jeunes dans les territoires de Lubero.
Ça nous pousse à connaître que nous jeunes, nous sommes appelés à faire la paix chez nous, à ne pas être manipulés par les gens qui ont leurs intérêts propres. Nous allons aller réunir d'autres jeunes pour les appeler à ne pas être manipulés, à ne pas adhérer à des mouvements qui vont déstabiliser notre territoire.
Beni, Grévis Salomon, Radio Kapi.
Parlons du mini-forum consacré exclusivement aux investissements dans la ville de Kinshasa. C'était en marge du grand forum Chine-Afrique qui s'est déroulé du 3 au 6 septembre à Beijing. Avec comme thème Kinshasa et l'Eldorado des investissements, ce forum économique RDC Chine a été une occasion pour le gouverneur de la capitale de présenter la situation de sa ville. D'autant plus que cette métropole a besoin des investisseurs pour son évolution. Plus de détails avec Étienne Lissumbu.
Au cours de cet événement organisé à l'ambassade RDC en Chine, Daniel Bumba s'est présenté sur les différents secteurs qui font l'objet de son plan de redressement de la ville de Kinshasa. C'est notamment les secteurs des énergies renouvelables, du tourisme, de l'agriculture et de l'industrie pour ne citer que cela. L'objectif étant pour le gouverneur de Kinshasa de tenter de transformer l'environnement de la capitale congolaise. De ce fait, il a lancé un appel pathétique aux investisseurs chinois présents dans la salle afin qu'ils accordent une attention particulière à la ville de Kinshasa. En effet, la capitale congolaise offre de multiples opportunités d'affaires, ce qui nécessite à cet effet la sécurité et une garantie de bon climat des affaires. C'est à quoi le gouverneur Daniel Bumba n'a pas manqué de donner toutes ses assurances. Notons que ces assises de Chine ont été une occasion propice non seulement pour l'RDC en général, mais surtout pour la ville de Kinshasa et son gouverneur en particulier, d'élargir la coopération avec les investisseurs chinois dans les différents secteurs de la vie.
Merci à vous, Étienne Lissumbu, pour toutes ces précisions. Célébration ce dimanche de la Journée mondiale des kinésithérapeutes. Cette journée, bien entendu, est commémorée le 8 septembre de chaque année. Ici à Kinshasa, plus de 150 kinésithérapeutes se sont réunis au centre Liloba pour faire découvrir au public leur métier et promouvoir leur profession. La lombalgie est le thème de la journée sur lesquelles s'est appesantie l'Union des kinésithérapeutes au Congo UKASI. Félicité Bofossa, présidente de l'UKC, explique au micro d'Askin Zigbiatayoro comment peut-on faire face à la lombalgie qui affecte la santé humaine. Suivez.
Au fur et à mesure qu'on avance en âge, la majorité des personnes se plaignent de douleurs au dos. Ce qu'il faut faire au quotidien, c'est l'hygiène de vie. Les postes de travail qui ne sont pas bien adaptés peuvent conduire aux douleurs lombaires. Adopter des attitudes lorsqu'on a déjà une lombalgie qui s'est installée, se comporter de telle sorte que les douleurs ne soient pas aggravées en se référant du conseil de votre kiné pour respecter les attitudes dont les actes que nous posons au quotidien. Par exemple, au bureau, lorsque vous êtes assis longtemps, pendant une heure, il faut s'arranger pour se mettre debout, marcher ne fût-ce qu'aller à gauche, à droite, faire quelques mètres pour essayer de dégourdir le membre et de faire quelques étirements pour protéger votre dos. À la maison, par exemple, rester longtemps assis en train de regarder la télé pendant des heures et des heures, ce sont des pratiques vraiment qui nous exposent au développement des lombalgies.
Actualité internationale.
Les experts annoncent une aggravation des inondations au Soudan du Sud avec des mois de septembre et octobre qui s'annoncent comme les plus difficiles. Depuis fin 2023, des vastes zones du pays sont déjà submergées. L'ONU estime que 710 000 personnes vivant dans 30 des 78 comtés du pays sont touchées par cette nouvelle montée des eaux. Des photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des communautés armées de leurs seules mains en train de construire des digues pour protéger leur village.
L'invité.
Au Kassai-Oriental, la brigade des jeunes de l'Institut africain de leadership agricole, ALI, sensibilise les jeunes à opter pour l'enseignement agricole. Au cours de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, les ingénieurs de ALI ont indiqué que l'agriculture est considérée comme une corvée par les jeunes à cause des comportements de certaines écoles qui utilisent la houe pour punir les élèves. Patrick Moulet-Bois, chargé de l'éducation agricole au sein de la brigade des jeunes de l'Institut africain de leadership agricole, s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour Patrick Moulet-Bois. Au cours de cette journée d'échange, vous êtes intervenu sur l'éducation agricole. Qu'est-ce que cela signifie?
Oui, bonjour, merci beaucoup. En rapport avec l'éducation agricole, nous pouvons dire que c'est l'un des départements de la brigade des jeunes ALI. Nous avons 5 départements techniques, bien sûr. Nous avons la production végétale modernisée, nous avons la production animale et piscicole, nous avons la mécanisation agricole, nous avons la transformation à valeur ajoutée, ainsi que l'éducation agricole dont il est question ici avec vous. L'éducation agricole a vu jour grâce à l'initiative de notre président Sanguine Kateranya, et c'est grâce au programme STEP, STAR, DEM et les programmes. Donc, commencer avec les très tôt. Commencer avec qui? Avec les plus jeunes. Pourquoi? C'est juste pour changer la mauvaise perception qu'a les jeunes vis-à-vis de l'agriculture. Donc, beaucoup de jeunes considèrent l'agriculture comme étant une corvée, comme une punition, comme un passe-temps, comme un métier de pauvres, ainsi de suite. Et plus loin, il y a aussi les écoles qui favorisent ce que les jeunes ont déjà dans leur tête en faisant quoi? C'est en punissant un élève en donnant la roue. Donc, si un élève venait en retard, pour punir cet élève-là, on lui donne la roue pour qu'il cultive. Et ça aussi, on est en train d'inculquer dans la tête de l'enfant que non, l'agriculture est une punition.
Qu'est-ce que vous faites pour changer cette mauvaise perception?
C'est d'abord intervenir dans les écoles. Comment? On entre d'abord en contact avec les inspecteurs pour d'abord leur demander la permission ou l'autorisation de passer dans les écoles. Pourquoi encore? C'est juste parce que leur rôle est de faire le suivi et évaluer aussi les interventions qui se font dans les milieux scolaires. Donc STEP ou l'éducation agricole intervient à 3 niveaux. Nous avons d'abord le premier niveau, c'est au niveau du système éducatif. Là, l'éducation agricole aide à améliorer le curriculum scolaire. Comprenons par là que nous allons nous focaliser beaucoup plus sur la pratique et non la théorie. Dans les écoles techniques, il y a peu d'heures de la pratique et beaucoup d'heures de la théorie. Maintenant, nous sommes là pour valoriser les heures pratiques avec nos formations et aussi nos pratiques, surtout la pratique sur terrain.
Vous avez des champs d'expérimentation, vous amenez les élèves, ce sont les écoles qui ont des champs d'expérimentation.
Faisons l'identification des écoles techniques organisant l'option agriculture. Donc, nous nous basons sur les potentialités qu'offrent les écoles. Donc, par exemple, lorsque nous nous présentons dans une école, nous voyons d'abord ce que l'école a en son sein, le nombre d'hectares de l'école et aussi le nombre d'hectares alloués à la pratique. Nous mettons aussi beaucoup plus l'accent sur l'élevage. Nous voyons si l'école a une ferme, si l'école a une unité de transformation, les matériels de la mécanisation, que ce soit la grande ou la petite mécanisation. Nous voyons aussi si l'école a une connexion Wi-Fi, un laboratoire d'informatique. C'est juste parce que dans nos interventions, avec nos nouvelles technologies, il y a aussi une branche de l'agriculture digitale, donc l'agriculture numérique. Il y a certaines applications qui permettent d'identifier et proposer même les pistes de solutions des maladies. Et c'est pourquoi nous mettons encore beaucoup plus l'accent sur les laboratoires informatiques et aussi la connexion Wi-Fi. Et maintenant, dans la valeur ajoutée, mettons beaucoup plus l'accent sur l'unité de transformation. C'est juste pour valoriser aussi, parce que nous ne pouvons pas seulement nous baser sur la production et non sur la transformation. Nous connaissons très bien, lorsque nous transformons, il y a déjà une valeur ajoutée. Un exemple palpable, si vous avez le maïs, si vous voulez vendre les grains, ça ne sera pas au même prix que la farine.
Et lorsque vous arrivez dans les écoles où il n'y a pas tout ce que vous venez d'énumérer, tel que le Wi-Fi, qu'est-ce que vous faites alors?
Il y a les écoles qui en ont et d'autres écoles qui n'en ont pas. Maintenant, comment est notre politique? Nous commençons d'abord par les écoles qui ont déjà quelque chose. Parce que nous, notre politique n'est pas de donner, mais nous sommes en train de former les élèves à l'idée de l'agribusiness. Donc, couper quand même la main qui est toujours tendue vers l'extérieur. Par exemple, nous avons déjà ciblé une école qui répond déjà aux critères dans lesquels nous avons déjà commencé à intervenir. Donc, les écoles qui ont été ciblées en première position constitueront des écoles pilotes. Donc, lorsque nous avons déjà commencé à intervenir là, une fois que nous avons impacté, d'autres écoles commenceront maintenant à venir là pour apprendre encore davantage. Donc, ces écoles-là seront pour nous les écoles pilotes.
Patrick Moulebois, je vous remercie.
Merci beaucoup, Maman Esther. Merci.
Notre invité répond aux questions d'Esther Ndalafina. Voilà qui met fin à ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda et mis en onde par Alain Goy. La présentation de Grâce Amzati Masanzi. Merci.